Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur, avec quelques secondes de retard. Fait que j'ai coupé la chanson. Désolé, c'est une belle petite chanson. Et puis, j'avais tellement de temps en avant de moi que je suis parti dans la lune. Et j'aurais dû partir dans le soleil parce que le soleil est derrière les nuages, n'est-ce pas? Fait que j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai eu le prix Longévité CEFAC pour l'émission À nous le futur. Je remercie beaucoup la radio CEFAC. C'est un prix qui est donné à toutes les émissions actives depuis plus d'un an. Alors, je suis bien content, j'apprécie. Fait qu'À nous le futur, n'est-ce pas, l'animateur, il a perdu son ordinateur cette semaine à cause de la condensation. J'ai marché à peu près une heure avec l'ordinateur dans mon sac, puis à la maison, ne sachant pas qu'il fallait que j'attende au moins une heure là, pour que ça sèche un peu. Je l'ai ouvert tout de suite et boum, ça a parti, ça ne marche plus. Fait que là, il est en réparation. Je suis en état de sevrage de l'informatique. C'est le fun, ça fait du bien. Dans une de mes feuilles que j'avais d'imprimer antérieurement, j'ai vu que le rôle de grand-parent qui fait du bénévolat, là, ça équivaut à 131 400 emplois à temps plein au Québec. Ce n'est pas des emplois volés à d'autres, là. C'est des emplois que font les aînés en prenant soin de leurs petits-enfants, j'ai l'impression, là. C'est le rôle de grand-parent et du bénévolat d'aînés. Alors, mon inspiration pour l'émission, c'est presque à la semaine longue, là. Et la preuve, c'est que j'en ai deux inspirations qui datent de ce matin. Premièrement, à l'atelier, pendant que je déjeunais, j'ai ouvert ça un peu, c'était la table du fermier. Je pense que c'est TV5, 54, là, avec Jean-François Martin, notre agriculteur biologique, le plus connu, après Roméo Bouchard, qui était un agriculteur, qui est maintenant à la retraite. Et puis, ce matin, l'émission, c'était sur la plantation d'arbres comestibles, des arbres qui produisent des noix. Fait que vous savez qu'un Jean-Martin Forti, il a un restaurant à côté de sa terre, là. Et puis, les arbres qu'il a plantés, ça va donner des premières noix dans 5 ans et pour d'autres arbres dans 10 ans. Alors, c'est vraiment du temps long, hein, n'est-ce pas, qu'il faut... Pensez quand on plante des arbres à noix. Puis, parfois, dans cette émission, il y a du temps long. Et puis, en m'en venant ici, j'ai vu un camion. C'était marqué « Inspirer la tendance ». Pas la tendresse, mais la tendance. J'ai remarqué que c'était un camion qui consomme du pétrole. Alors, je comprends très bien le sens de la publicité. C'est inspirer la tendance, c'est abstrait, n'est-ce pas? S'inspirer de ce qui se passe, ça veut dire de la publicité, parce qu'il y en a amplement de la publicité. Ça nous rentre dans la tête, puis ça ne nous sort pas par les oreilles. Ça fait que, donc, je me disais que c'est un camion thermique qui provient du pétrole. Et il y a 4000 personnes au Québec qui meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Fait que c'est bien beau s'inspirer de la tendance, mais pas trop. Il faut contrôler cette tendance-là. Il faut sortir de la civilisation thermo-industrielle. Je dirais même nucléo-thermo-industrielle. Alors, on va en parler. Ça va être un des thèmes de l'émission à un moment donné. Et puis, c'est drôle parce qu'il y avait deux automobiles de police. Une à côté de moi et l'autre derrière moi. Puis je me disais, il doit y avoir une signification à ça. La signification, c'est protéger, servir, le but de la police. Alors, c'est ça, protéger la civilisation de la pollution thermique, ça pourrait être un rôle de la police verte, disons. Et puis, fait que là, on est rendu à la section autochtone de l'émission. Parce que j'ai une chronique autochtone qui commence là, depuis le début de cette émission-là. Puis je vais arrêter au cours du mois de décembre pour continuer au deuxième semestre les chroniques autochtones. Mais là, je vous cite un paragraphe d'un livre, puis je n'ai pas le titre du livre, mais disons que ça vient de la librairie Anne Norac. Un autochtone dit « Au Québec, on entend sans cesse parler du mythe du bon français et, pour être franc, je suis pas mal écœuré de l'entendre. Ce n'est pas parce que Champlain a dit « Nos fils épouseront vos filles, nous formerons ensemble une seule et même nation, etc. » que nos relations avec les Français-Québécois ont réellement été plus ouvertes. Les Québécois se servent souvent de cette phrase pour rejeter la faute sur les méchants Anglais. S'il n'y avait pas eu la conquête, on ne formerait qu'un beau grand peuple, heureux, en gambadant sur nos licornes. Mais à nos yeux, le mythe du gentil français qui voulait vivre en harmonie avec les Indiens, c'est de la bullshit. Bon, ben coudonc, c'est intéressant, c'est drôle, là. Et c'est en même temps sérieux. Et le même auteur ou un autre d'un petit livre, là, il dit que... OK, maintenant que le référendum est passé et que le vote pour notre indépendance a gagné haut la main, qu'est-ce qu'on fait? Sommes-nous capables de nous gouverner? Se demande un autochtone. On forme plein de petits gouvernements sans aucune force de frappe ou on tente de devenir une seule grande nation autochtone au Canada? Troisième option, on garde le meilleur des deux mondes. Chaque nation reste unique et autonome, mais on essaye de se regrouper pour former une coalition de gouvernements, un peu comme en Europe. L'Union indienne, je l'aime bien celle-là, ou bien les États-Unis des Indiens, ou peut-être l'Union des républiques autonomes autochtones, l'URAA. Je crois que nous avons ici un gagnant, l'URAA. Ça vous rappelle quelque chose? Redevenons sérieux. Bon, alors, je vous avais dit la semaine dernière que je vous donnerais une liste de livres des nations autochtones, là. Alors, la librairie Anénorak, plutôt, H-A-N-N-E-N-O-R-A-K, qui est à Wendake, m'a dit que pour justement des ouvrages qui représentent les 11 nations, il y a des contes de la tortue. Ça, c'est un recueil de contes pour toutes les nations du Québec. Il y a un livre qui s'appelle Nos racines. C'est un documentaire jeunesse qui dresse le portrait d'une personnalité connue et importante par nation. Et il y a Bonjour Koué. J'en ai parlé de celui-là ici à la radio. Petit livre qui retrace les rencontres de l'autrice avec des personnalités, une par nation, au sujet des langues autochtones, et la série Récits de notre terre par Daniel Clément. Ça, c'était des ouvrages généraux pour les 11 nations. Maintenant, pour les Anishinaabe, il y a le livre ODIBI, O-D-I-B-I, deux points, Voyage dans l'histoire Anishinaabe du lac Simon. Alors, cela, je l'ai fait venir à la librairie Appalaches, là. Il y a également chez la nation Anishinaabe, Émergence insoumise de Cindy Wilde. Maintenant, chez les Abénaki, je ne sais pas comment le prononcer. T'sais, la première lettre, ça ressemble à un 8. Et Tlokarté Canal, Légende. C'est un album jeunesse qui raconte des légendes liées à la mythologie abénakise, présente aussi un petit lexique de mots en Abénaki. Alors, si ça vous intéresse, courriel ou téléphone à la librairie Anénorak. Chez les Atikamek, on me conseille le livre Nikanik et Itapian, un avenir décolonisé. Je crois que la citation que je vous disais tout à l'heure, là, ça vient de ce livre-là. C'est un court essai sur la question de la décolonisation du point de vue d'un chef. Et puis, deuxièmement, c'est Émergence insoumise de Cindy Wilde. C'est une nouvelle parution chez Anénorak, dans le même format, Arangue. Que Indien stoïque, essai sur la question des femmes autochtones. Et chez les Cris, deux livres, c'est la trilogie d'albums de Thompson Highway dans la collection Chansons du Vent du Nord. Et deuxièmement, c'est Awasi et la délicieuse Bannique. Puis chez les Huron-Wendat, on me dit que, comme bon livre à lire, c'est La femme venue du ciel. C'est un mythe Wendat de la création. Et sinon, il y a toute l'œuvre de Louis-Carl Picard-Sioui, qui est un poète, ou bien celle de Georges E. Sioui, qui écrit des essais. Chez les Innus, on me conseille, tout en spécifiant que les Innus sont très bien représentés en littérature, voici quelques noms notables. Michel Jean, Joséphine Bacon, Anne-Antane Capèche, Naomi Fontaine. Tous les livres de ces auteurs sont pertinents, dit-il. Alors, aussi, il y a Le peuple rieur. C'est un essai sur les Innus de l'anthropologue Serge Bouchard. Puis, Nutchimit, c'est un bain de forêt. C'est un documentaire jeunesse très complet sur l'importance de la forêt et de la nature chez les Innus. C'est important pour nous aussi. Chez les Inuits, c'est Sanak, S-A-N-A-A-Q. C'est un récit très important dans la littérature autochtone en général. On peut y voir, entre autres, le mode de vie des Inuits. Et la collection Animaux illustrés, c'est une collection de documentaires jeunesse qui parle des animaux nordiques, autant dans leur biologie que dans leur rapport culturel chez les Inuits. Puis, chez les Mohawks, il y a Mohawk Warrior Society. C'est un essai qui documente le parcours historique et culturel d'une communauté Mohawk. Chez les Malécites, il y a Mokatek et l'étoile disparue. C'est un récit pour les jeunes qui fait briller la culture et la spiritualité Malécite. Chez les Micmac, le livre qu'on me conseille, c'est Notre histoire, Ntea, Nta Tugwakaniminen. C'est un livre qui retrace l'histoire des Micmac de Gaspésie. Puis, ce n'était pas nous les sauvages. C'est un essai important sur la cause autochtone écrit par un auteur Micmac. Et enfin, Kep Mit Takne Knapekian, c'est le chant d'honneur d'un album jeunesse qui raconte une histoire traditionnelle Micmac. Puis, pour les Naskapi, finalement, la 12e nation, là, on me dit qu'il n'y a pas d'ouvrage pertinent écrit par un auteur autochtone Naskapis. Je crois qu'il y en a un en anglais. J'ai vu ça récemment, là. Cependant. Alors, voilà, c'est pour la chronique autochtone de ce mois. Pardon, de cette semaine. Et puis, maintenant, je passe à quelque chose d'assez important. Donc, dans ma bibliothèque, cette semaine, je voyais un livre, je revoyais un livre qui se tenait debout verticalement. C'est Perestroïka de Mikhail Gorbatchev. Et puis, l'autre livre, c'est Dernière conversation avec Gorbatchev. OK. Alors, j'ai relu ces deux livres-là. Ça m'a vraiment passionné. Fait que j'ai trop de pages à vous dire, là, mais je vais vous le dire par cœur. Donc, à un moment donné, tu sais, je lisais Buckminster Fuller, ça c'est en 1980 à peu près, là. Puis j'étais à l'Université de Sherbrooke, puis j'en parlais beaucoup, il m'enthousiasmait beaucoup, parce que c'est le premier auteur qui disait, et malheureusement c'est en anglais seulement, quoi qu'il a écrit, le livre Operating Manual of Spaceship Earth, qui a été traduit ici en français, Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, traduit par René Pelletier du Cégep de Sherbrooke. Fait que dans son livre Critical Path, il disait que pour la première fois, l'humanité a tout ce qu'il faut pour bien vivre grâce au savoir que nous connaissons et à la technologie. Puis grâce au plan que j'ai, un plan de 10 ans, que si vous l'appliquez, dans 10 ans, vous allez avoir tout le monde là, de la planète, une belle qualité de vie. Puis vous n'aurez pas besoin de guerre et de nuire à l'écologie pour y arriver. Et moi, ça m'enthousiasmait beaucoup. J'étais très content. Je publicisais cette nouvelle parce qu'il y avait juste 1% de l'humanité qui était au courant. Et 40 ans plus tard, c'est toujours pas réalisé, puis même que ça rempire un petit peu, tu sais. Fait que, donc, après m'être rendu compte que ça marchait pas trop, là, essayer de convaincre les gens de ça, je me disais qu'il fallait démocratiser la chose. Alors, j'ai regardé à l'endos du livre de Buckminster Fuller qui s'appelait Critical Path, je vois Marlene Ferguson. Elle conseille de lire ce livre-là. Alors, moi, je vais lire le livre de Marlene Ferguson. Ça s'appelait « Les enfants du Verseau ». Un livre intéressant sur la, tu sais, Aquarius Age, là, l'ère du Verseau, c'est en plein ça, là. Fait que dans les ressources à la fin du livre, les ressources qu'elle suggérait de consulter pour aller plus loin, pour comprendre plus, il y avait un réseau qui a attiré mon attention, c'est le réseau Action Linkage, dirigé par un économiste, Robert Theobald. Lui, il a écrit beaucoup de livres, là, puis donc je suis devenu membre de son réseau. Ça, c'est avant Internet. Alors, on communiquait par la poste. Il nous envoyait des lettres, là, et puis sur divers comités, comme le comité géographie, comité écologie et tout ça. Et puis finalement, je reçois une lettre, il dit « Nous, 30 personnes, nous avons décidé d'écrire un manifeste au sujet de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications. » Un manifeste d'une trentaine de pages. Ça m'a beaucoup enthousiasmé. Et imaginez-vous, je l'ai même traduit en français. tout en n'étant pas tout à fait bilingue moi-même, j'ai demandé l'aide d'une traductrice de Sherbrooke qui est, bon, voilà, ça s'est fait. Et puis je l'ai publié grâce à la revue Idées et pratiques alternatives, qui n'existe plus maintenant, dont Roger Léger était le fondateur et l'éditeur. Mais ce texte-là a paru dans le livre Alternatives d'ici et d'ailleurs aux éditions du Fleuve, qui est disponible à la Bibliothèque nationale du Québec. Bon. Il y avait 2000 signatures, puis moi j'ai signé ce livre-là. Ce manifeste-là. La transition en question, c'était de l'ère industrielle à l'ère des communications. On nous faisait comprendre qu'il y avait une transition semblable de l'ère de la chasse à l'ère de l'agriculture, et ça a pris quelques millénaires. Puis de l'ère de l'agriculture à l'ère industrielle, ça a pris quelques siècles. Et de l'ère industrielle à l'ère des communications, il était question de quelques décennies. Et nous serions peut-être dans à peu près la dernière décennie, là, parce que l'ère des communications est pas mal installée. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de paix, n'est-ce pas? Mais on parlait, par exemple, des limites de la planète, des nouvelles technologies à ce moment-là. On disait que ça prenait un revenu garanti. Et puis, justement, ce matin, je vais vous parler d'un petit livre là, sur le revenu minimum de base. Ça fait que, donc, justement, on devrait faire le passage, puis ça se fait, là. Et moi, je l'ai signé, puis c'était un consensus. Autrement dit, c'est le plus grand nombre possible de professions, de nations, des gens qui représentaient la gauche, le centre et la droite. Fait que moi, j'ai signé, puis j'ai marqué « cuisinier d'aliment naturel » parce que je l'ai déjà été. Puis je voyais dans les signataires qu'il n'y avait pas de cuisinier. Et justement, ça a marché parce qu'ils ont pris ma signature, ils l'ont mis dans le document. Comme autre signature, là, on tombe dans une autre tranche de catégorie. Là, c'est des intellectuels de haut niveau considérés dans le monde entier. Fait qu'il y avait Fridtjof Capra, qui a écrit comme physicien « Le Tao de la physique », que vous pouvez trouver facilement, « Le temps du changement », en français. Le reste de ses livres, c'est en anglais. Son dernier, c'est « The System View » en 2021. Et il donne un cours en ce moment sur le paradigme nouveau, là, qui s'appelle le paradigme écologique féministe et holistique, en remplacement du paradigme newtonien-cartésien. C'est surtout celui-là qu'on enseigne encore dans les universités. Et puis, comme par hasard, à ce moment-là, je faisais une émission à CFLX. CFLX, elle était à l'université, ici, à l'Université de Sherbrooke, dans ce temps-là. C'est par hasard là, que j'ai fait cette émission-là. Je me promenais dans le corridor, puis il y a une fille qui me voit regarder dans la vitrine. Elle dit « Coudonc, ça te tente-tu de faire une émission? » Je lui dis « Pourquoi pas? » Puis finalement, j'ai décidé d'en faire une sur l'avenir, parce que l'avenir, c'est un thème que je ne trouvais pas développé au Québec, comme l'imagination. C'est un cuisinier japonais qui m'a fait prendre conscience de l'importance de penser au futur. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, je m'aperçois que Fridtjof Capra vient faire une conférence dans les Laurentides à Valmorin, dans le cadre d'une semaine sur le yoga. Alors, je vais l'interviewer. Et puis, il parle français, très grande surprise, agréable surprise, je l'interview en français. J'ai sa cassette dans une valise, là. Et puis, il me dit que Gorbatchev, qui était au pouvoir à ce moment-là en Union soviétique, avant que ce soit désagrégé, l'Union soviétique, il me dit que Gorbatchev était le seul politicien au monde qui était familier avec le nouveau paradigme pacifique, holistique et féministe. Puis, il me donne un document aussi, ce document-là, est-ce que je l'ai, je pense. Oui, je l'ai. Ça s'appelle « Mikhail Gorbachev Address to Participants in the International Forum for Nuclear Free World for Survival of Humanity » le 16 février 1987 qu'il a fait cette conférence-là. Alors, là, j'ai acheté un livre, c'est Mikhail Gorbachev, c'est « Perestroïka, vue neuve sur notre pays et le monde ». Fait que là aussi, je le dis par cœur parce que, en gros, là, attendez un petit peu, là, j'ai... Ouais, en gros, c'est qu'il voulait... Bon, OK, je recommence. Il s'est aperçu, en étant président de l'Union soviétique, après beaucoup de recherches, parce que c'était pas évident à trouver, que 40% du budget de l'Union soviétique allait dans la construction d'armement. L'industrie militaire, pour faire face à nous, l'Occident, parce qu'il y avait la guerre froide à ce moment-là. Fait que là, lui, il est effaré. Il dit c'est beaucoup trop, 40 %. Il y a tellement de pauvreté. Puis là, il a constaté que 50 % des infrastructures de l'Union soviétique étaient à refaire. Et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est pas refait, hein? Fait que, donc, le temps passe, puis l'Union soviétique se désagrège. C'était pas ce qu'il voulait, mais c'est ce qui est arrivé. Puis lui, il avait eu le temps de parler à son peuple. La perestroïka, ça voulait dire « Nous devons restructurer l'Union soviétique parce qu'on met trop d'argent dans le militaire et on en a du trop pauvre. » Et cette restructuration, ça s'appelle la perestroïka. Et nous devons la faire dans la transparence. C'était le mot « glasnost ». C-L-O-S-N-O-S-T. Alors ici, en Occident, nous n'avons pas fait notre propre perestroïka et notre propre glasnost. Alors, elle a eu des... Madame Thatcher l'aimait beaucoup. Reagan l'aimait moins. Et puis, il voulait vraiment prendre soin de l'environnement. C'était une question mondiale. C'était une question de sauver de l'humanité. Et puis, d'autre part aussi, il fallait absolument un monde libre des armes nucléaires. C'est pourquoi il a défait le pacte de Varsovie. Ça, c'était l'OTAN pour le monde de l'Union soviétique. Et nous, on n'a pas eu la politesse, la sensibilité semblable, réciproque, de défaire l'OTAN. Au contraire, on a fait pire. On a abandonné la promesse qu'on lui avait faite de ne pas se rapprocher de l'Union soviétique. L'OTAN, on s'est trop rapproché. Puis en plus de ça, il y a des pays nouveaux, suite à désagrégation de l'Union soviétique, qui sont venus au monde, comme la Lettonie, par exemple. Et ils sont devenus membres de l'OTAN. Alors ça, ça a choqué un jeune homme qui était presque à la tête du KGB, qui s'appelait M. Poutine, qu'on connaît bien ici, lorsqu'on en mange. Et puis, Poutine n'aimait pas trop Gorbatchev. Et autrement dit, Poutine a inversé la perestroïka, ne s'est pas occupé du tout de rétablir les infrastructures. Puis, on se rend compte que c'est la même chose en Amérique. L'Amérique, c'est un état de guerre permanent, c'est le war system, c'est une industrie militaire. Finalement, la première industrie du monde, c'est-à-dire de l'Amérique, c'est l'industrie militaire. Plus de 51 % de l'économie est militaire. C'est ce que Seymour Melman s'est évertué à nous faire comprendre dans une vingtaine de livres, et je vous en ai parlé beaucoup déjà. Puis, c'était un ingénieur industriel qui donnait un cours à l'Université de Columbia à New York sur le désarmement et la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Puis j'ai relu son livre dernièrement, cette semaine, là, c'est « Démilitariser, conversion ». Puis il regrettait qu'il n'y ait pas eu de cours, d'autres cours que le sien, dans les universités. Puis ça m'a donné l'idée qu'on devrait en donner un cours à l'Université de Sherbrooke, ici, sur le désarmement, la démilitarisation, la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Et ce serait en trois parties. La première partie, ce serait sortir de la religion, c'est inspiré de Abdennour Bidar, qui est un musulman philosophe, ou l'inverse, un philosophe musulman, qui a écrit le livre « Les tisserands », c'est-à-dire « Réparer le tissu déchiré du monde », puis aussi le livre « Libérons-nous des chaînes du travail et de la surconsommation », c'est là-dedans qu'il propose le revenu minimum garanti ou le revenu de base. Et puis, le troisième livre, c'est « Sortir de la religion ». Alors ça, c'est un livre très intense, très dense, que j'ai lu. J'ai relu, là, encore cette semaine, très lentement. Et puis, j'ai tellement de pages, je pense que ça me prendrait une vingtaine d'émissions pour vous le dire. Mais allez le lire, allez le réserver. Fait que s'il n'est pas ici, printemps bibliothèque, ça se fait bien. Alors, quand même, je vous dis son idée principale. C'est que la finalité de la religion, elle est atteinte. C'est terminé. On est rendu. On l'a, la finalité de la religion. C'est quoi? C'est être des dieux. On est rendu là. Nous sommes des dieux et déesses. Dans le sens que nous avons la capacité de nous autodétruire ou de nous créer. Et pour l'instant, c'est la capacité de nous autodétruire qui l'emporte. Par les bombes nucléaires, par ne pas prendre soin de l'environnement, on peut éteindre l'humanité. Fait que c'est pourquoi, dit-il, nous sommes des sortes de bébés dieux, bébés déesses. Il faut apprendre à contrôler notre surpuissance et l'orienter vers la puissance créatrice. Alors, là, je viens de vous résumer un livre en quelques secondes. Fait que je suis déjà rendu à 11h26 et puis j'ai sauté la publicité. Je vous reviens dans quelques instants. Oui, rebonjour, ici Claude Saint-Jean, à nous le futur. Bon, ça va bien. Fait que, donc, je reviens à vous parler du désarmement, parce que c'est les Nations Unies qui ont publié des rapports. Ça s'appelle « Rapport entre le désarmement et le développement ». C'est rare que c'est en français, fait que, tu sais, là, je le lis en français, puis je voudrais vous lire un petit extrait. C'est le document numéro 5 sur le désarmement. Il serait pratiquement impossible de contester qu'une inversion du sens de la course aux armements est souhaitable pour accélérer le processus de développement socio-économique. Mais le bilan extrêmement décevant des efforts de désarmement, d'une part, et les résultats moins que satisfaisants obtenus jusqu'ici dans l'instauration du nouvel ordre économique international, d'autre part, ont mis en lumière la réticence déplorable manifestée par certains États à percevoir une relation entre le désarmement et le développement. Dans cette situation, l'adoption de mesures concrètes dans le cadre du désarmement au profit du développement pourrait avoir des effets psychologiques et politiques de nature à influer favorablement sur les relations entre pays développés et au développement, et surtout et pourtant, là, partant, sur la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est les rapports entre le désarmement et le développement aux Nations Unies. C'est une bonne ressource en français. Là, j'ai d'autres livres à vous suggérer. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke, là, celui-là. C'est « Ici, l'école rendait nos ados heureux ». J'ai trouvé ça très le fun. Fait que voici, j'avais une citation de prévu, puis... OK, c'est « Les émotions à l'école », page 85. Jusqu'à récemment, la recherche s'était peu penchée sur la place des émotions à l'école. L'on s'intéressait à la construction d'un individu rationnel par les apprentissages et le savoir académique, laissant aux pédagogies alternatives nouvelles de Montessori à Freinet le soin de penser le bonheur d'apprendre et l'épanouissement par le savoir. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Ça s'appelle « Et si l'école rendait nos ados heureux » de Julie Dubois, un livre super. Comme autre livre super, j'ai trouvé « Les 12 sagesses des arbres » de Vincent K-A-R-C-H-E. À la page 171, il parle des bains de forêt. Au Japon, peut-être plus qu'ailleurs, la forêt est précieuse. Ville tentaculaire, nature plus aiguë du fait de l'insularité, catastrophe environnementale, le besoin de s'oxygéner en milieu de verdure est une urgence absolue. On ne s'étonne donc pas d'avoir vu naître là-bas un concept de médecine préventive appelé Shinrin-yoku, ou le bain de forêt. Alors, donc, ça me permet de vous dire qu'il y a, juste en face d'ici, je le vois, le Mont Bellevue, avec un beau sentier de forêt. Et puis, à l'université, j'ai vu le programme PAIR, P-A-I-R. Ce sont des marches dans la forêt organisées. Alors, ça, c'est super. Bravo. C'est bon pour la santé. Et puis, tout à l'heure, je suis senti interviewer Gabriel Leclerc, Rondeau Leclerc, à propos de la nourriture, l'alimentation, les forêts nourricières et tout ça. Je n'ai pas réussi à le rejoindre. Je vais encore tenter tout à l'heure. Ce serait le fun que ça se passe. Si ça ne se passe pas, on va se reprendre. J'ai du matériel pour qu'on ne s'ennuie pas ensemble. Alors, un autre livre, ça s'appelle « L'op-cycle ». U-P-C-Y-C-L-E, là. C'est « Au-delà de la durabilité, concevoir pour l'abondance ». C'est de William McDonough, qui est un designer architecte, et l'autre, c'est Michael Brungar, c'est un chimiste. Puis c'est préfacé par Bill Clinton. Fait que j'ai ici une belle petite citation. L'étude ne s'intéressait pas à ce qui ne changeait pas, mais quand nous avons appelé les chercheurs pour leur demander de se pencher sur cet aspect de la question, ils ont pointé deux traits de personnalité parfaitement immuables. Peu importe les circonstances, la gentillesse et la bonne volonté à expérimenter des bonnes choses. Ouais, c'est pas exactement celle que je voulais vous dire comme citation. Mais en fait, puisqu'il y a trop de citations et que je trouve pas spontanément celle que je voulais vous donner, finalement, c'est au lieu de penser à du recyclage, n'est-ce pas, gérer nos déchets. C'est, par le design, faire quelque chose qui ne générera pas de déchets en premier lieu. Alors, il faut aller voir C2C. C'est, comment ça s'appelle, donc, attendez un peu. Son premier, Cradle to Cradle, tu sais. Leur premier livre, c'était Cradle to Cradle, donc C, le chiffre 2 et C, ça, ça vous envoie leur site Internet. Puis ce sont des spécialistes du design de produits qui sont sains complètement, qui ne généreront pas de déchets. Et ça me fait penser qu'il y a Jacques Laval, que j'ai déjà interviewé ici, qui a écrit un livre québécois sur, un peu sur la même chose. L'idée de faire des produits locaux écologiques. Excusez cette silence, cette seconde de silence. Je me suis étiré pour aller chercher un autre livre qui était plus loin. Et c'est un livre important et pesant. C'est de Christophe André. Ça s'appelle « Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne ». Alors, qui est Christophe André? Je prends une goutte d'eau. Merci, eau. Alors, c'est un psychiatre. Et puis, il est devenu malade à un moment donné, sérieusement malade. Alors, c'est la première fois de sa vie qu'il était malade, puis ça lui faisait mal. Tu sais, là, il avait passé proche de mourir. Puis là, il s'est rendu compte que, comme psychiatre, il aidait les gens à guérir, il les dirigeait, il les guidait, mais jamais n'avait pensé à les consoler. Puis lorsqu'il était très malade, il a senti un besoin de consolation. Alors, depuis qu'il a été guéri, il a écrit un beau livre qui s'appelle « Consolation, celle que l'on reçoit, celle que l'on donne ». Je l'ai trouvé à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke. Et il y a de très belles photographies de peintures, tu sais, de l'art visuel, là, des peintures, là. Fait qu'il y a, je pense qu'il y en a au moins 80. Et en voici une, il dit que sans la consolation, chacun s'enfermerait dans sa solitude sous l'effet de la souffrance. Le monde ne serait plus peuplé que de dolents, d'inconscients et d'indifférents. La consolation est un lien fraternel qui maintient les humains unis et solidaires face à toutes les adversités. Je pense qu'on a besoin de consolation ces temps-ci beaucoup par rapport à l'armement qui est trop exagéré. Cet armement qu'on pourrait diriger vers le bien-être civil pour réparer nos infrastructures, pour générer une belle qualité de vie, un air propre, une eau propre, tout ça. T'sais. On a besoin d'être consolé de l'environnement qui se détériore et puis on se sent un peu impuissant. On essaie. Et puis, tu sais, je fais un lien avec le livre « Sortir de la religion ». C'est parce que nous ne sommes pas sortis de la religion, même si apparemment au Québec, on l'est, là. On a encore des réflexes, tu sais, on n'est pas... Fait que c'est parce qu'on n'est pas sortis de la religion, tant qu'on n'aura pas lu le livre « Sortir de la religion », qu'on ne prend pas bien soin de l'environnement et que nous ne nous donnons pas la paix. Et la paix étant des liens pacifiques avec nous-mêmes, avec l'environnement et avec les autres. Une dernière citation, il appelle ça un vrac consolatoire, une liste de choses dérisoires et réconfortantes. Voir un chien courir sur la plage, fou de joie, revenir vers son maître ou sa maîtresse, lui tourner autour plein d'amour, puis repartir sans jamais se lasser de tout ce qu'il leur a vu. Simplicité admirable de bonheur canin, qui nous est inaccessible à nous les humains sur la durée, mais qui de temps en temps nous donne envie de courir comme des dératés, absolument confiants et consolés de tout. Alors, je vous conseille de lire ça. Que direz-vous d'une autre pause musicale? Tu sais, je parle beaucoup, là. Je vous donne la paix. À tantôt. OK, ça y est. Ici Claude Saint-Jean pour nous le futur. Nous revenons en onde. Je voudrais vous parler d'une trousse de démarrage pour l'urgence climatique. Deux points. Un guide de mise en œuvre pour simplifier votre parcours climatique. Ça, c'est à l'intention du système de santé. Je ne me souviens pas où j'ai pris ça, là, mais je pense que c'est peut-être Phare Climat, Phare Climat. Mais si vous pitonnez le titre exact, je pense que vous allez tomber dessus. Je le répète, c'est « Trousse de démarrage pour l'urgence climatique », un guide de mise en œuvre pour simplifier votre parcours climatique. C'est assez, tu sais, comme 19 pages, je vais revenir la semaine prochaine là-dessus quand même. Fait qu'on sait que le système de santé produit 5 % des gaz à effet de serre. Alors, avec ce 5 %-là, il rend des gens malades, qu'il guérira par la suite. Alors, disons que le système de santé vient de se rendre compte et il veut atténuer la quantité de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il veut faciliter la sortie précoce des hôpitaux. Il veut prévenir les réadmissions qui sont évitables. Il veut prévenir les premières admissions hospitalières. Et il veut restreindre l'utilisation des flux du défluorane et réduire l'utilisation des inhalateurs doseurs, qui sont des produits pharmaceutiques producteurs de gaz à effet de serre. Il veut avoir du leadership pour économiser les combustibles fossiles, acheter des produits chirurgicaux réutilisables et à faible empreinte carbone, réutiliser les blouses, les conteneurs de déchets pointus et autres dispositifs médicaux, puis organiser et soutenir les équipes vertes. Pour l'alimentation, se concentrer sur un menu riche en aliments d'origine végétale, ce qu'on ne trouve pas dans les hôpitaux, particulièrement dans celui de Stat à la télé. Concernant les bâtiments et l'énergie, enlever les réservoirs de protoxyde d'azote, prévenir les fuites tuyaux dans les réservoirs qui existent déjà et s'engager un gestionnaire de l'énergie. Il faut comprendre les risques climatiques et puis mettre en œuvre des interventions de résilience climatique. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment très surpris à la page 3. Attendez un petit peu. Non, c'est un petit peu plus loin, juste un instant. OK. Et la première chose qu'il faut faire, il faut favoriser le vieillissement et la fin de vie des patients au sein de leur communauté. Ça, c'est pour ceux qui acceptent de mourir. OK. Fait qu'en 2023, seulement 15 % des Canadiens ont eu accès à des services de soins palliatifs au cours de leur dernière année de vie, bien que la plupart des décès surviennent dans des établissements hospitaliers. Une approche de soins de confort permet aux patients de passer davantage de temps à la maison, réduit la demande sur les ressources du système de santé et est respectueuse de la planète. Un examen de pratique actuelle des soins intensifs qui consomment beaucoup de ressources et offrent peu de bénéfices est indispensable pour assurer la durabilité du système de santé. Donc, les admissions à l'hôpital au Canada durant la dernière année de vie génèrent entre 130 000 et 260 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. Le temps passé à l'hôpital à recevoir des soins médicaux agressifs en fin de vie entraîne une production inutile de gaz à effet de serre sans valeur ou de faible valeur pour les patients. Alors, pour favoriser le vieillissement et la fin de vie des patients chez eux, les dirigeants et les prestataires des soins de santé devraient reconnaître le principal facteur de l'hospitalisation au Canada, deux points, la fragilité en fin de vie. Cette fragilité est une condition progressive et finalement terminale, résultant de l'accumulation des déficits de santé au fil du temps. Alors, c'est ça qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, même si je ne suis pas tombé à ce moment-là. C'est que, justement, tu sais, c'est quoi qui consomme le plus de soins de santé? C'est les personnes âgées qui, sur leur lit de mort, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'ils proposent des soins de vie, des soins palliatifs à la maison, mieux organisés. Alors, ce texte-là, sur lequel je vais revenir la semaine prochaine, est accompagné d'un autre, ça vient de Coalition canadienne pour une Green Health Care, pour les soins de santé durables ou viables ou verts. Alors, ici, on parle de prescription durable. On parle de pharmacopée durable. Durable pour les patients, pour les systèmes de santé, pour la planète. Le système de santé, des soins de santé actuels est en train de prescrire des médicaments trop prescrivants. Des études suggèrent que nous prescrivons certaines classes de médicaments de 20 à 30 trop, en trop. La production des médicaments représente 48 % des gaz à effet de serre d'un bureau de santé primaire et les émissions des inhalateurs doseurs ajoutent 13 % de plus. Si un bureau pouvait réduire les médicaments de 10 % ce serait autant que le bâtiment, énergie et eau et déchets combinés. Les déchets provenant de médicaments causent d'autres dommages à l'environnement. Donc, dans le chapitre pharmacie et hôpital si nous suivons les recommandations appropriées, en particulier pour les personnes âgées. Nous pouvons réduire les médicaments de plus de 5 %. Cela permettrait d'économiser un hôpital de 200 lits au Canada, plus de 100 tonnes d'équivalent CO2 et plus de 200 000 $ par année. Et ils annoncent des webinaires, là. Je vous en fais une courte liste. Il y a un webinaire, il a eu lieu le 23 avril, c'était « Changement climatique et pharmacie, un lieu pour tous ». Et un autre, c'était le 26 octobre 2022, « Pharmacie hospitalière et crise climatique ». Donc, dans la table des matières, on parle d'engager des établissements de santé dans une démarche de résilience climatique et de durabilité environnementale. Ça serait le fun de vérifier ici au Centre hospitalier universitaire comment ça va pour ça. Peut-être qu'on va faire une entrevue à CFAC là, là-dessus, là, ou bien un article dans le journal Entre Libres. Ça serait le fun. Et ce serait le fun, comme je disais tout à l'heure, que le LG2, c'est quoi ça, le LG2? Ce n'est pas le barrage que le Québec a fait pour faire de l'électricité. C'est lien entre les générations. Donc, ce serait les aînés qui auraient l'initiative. C'est ce que je propose. Là. Je me cherche d'autres aînés. Là. Il y a M. Jasmin, je pense, qui est intéressé. Il a participé à l'émission aussi sur la paix une couple de fois. Il y a Martin Lemons qui a écrit un guide sur les changements climatiques qui est intéressé. Et puis, je me cherche d'autres aînés. Et j'aimerais ça que nous rencontrions le rectorat parce que le but, ce serait d'accueillir en septembre prochain les jeunes de 18 ans qui s'en viennent et pour faire des liens entre les aînés et eux et elles, pour peut-être leur dire que nous nous sentons en état de sororité, de fraternité avec eux et elles, que nous souhaitons de l'entraide, que nous souhaitons diminuer l'éco-anxiété et dans le cas de certaines personnes âgées plus conscientes de la nucléo-problème, là, la nucléo-anxiété. Et ce serait le fun de faire une couple d'événements par année, intellectuels et émotionnels, et positivement émotionnels, pour nous renseigner sur comment régler les problèmes d'environnement. On pourrait dire ça plus scientifiquement, pour la sortie de la civilisation thermo-industrielle, pacifiquement et joyeusement, si possible. Alors, je reviens tantôt, là c'est le tour à la pub. OK, c'est Claude Saint-Georges à nous le futur. J'espère que vous allez encore bien, que vous voyez le très beau soleil qui nous envoie des belles petites radiations réchauffantes, là. Fait que je voudrais vous parler un petit peu d'une couple de documents avant qu'on se quitte. Et on a raté l'interview avec Gabriel Rondeau-Leclerc. On va se reprendre. On a à peu près d'autres sujets, comme, exemple, la forêt nourricière de l'École des Avenues, la forêt Miyawaki, et les infrastructures vertes, et puis le rêve nourricier au CPE, les petites puces, on va parler de ça dans les 3-4 prochaines émissions. Fait que nous allons nous reprendre, Madame Gabrielle Leclerc-Rondeau, on n'a pas pu se rejoindre, mais on va le faire encore. Fait que, donc, il existe un document qui s'appelle « L'équité intergénérationnelle autour du vivant ». C'est un webinaire qui a eu lieu le 22 avril. C'est l'équité, bon, comme je vous ai dit, là, c'est l'Office de la jeunesse internationale du Québec qui organise ça, avec la Croix verte. Fait que si vous voulez faire ça, bien, vous pitonnez exactement le sujet, là, puis vous allez tomber dessus. Et vous savez qu'il existe une Déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est depuis 2015 que ça existe. J'ai été surpris de ça, d'apprendre ça la semaine dernière. Fait que je suis allé le voir avec mon ordinateur. Et là, je ne peux plus pour 2 semaines. C'est sauvage de l'ordinateur, mais c'est pas grave. Fait que sachez que ça existe, la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et puis, j'ai un exemple ici, la ville de Charlie, en France, qui a signé cette déclaration. Et tu sais, c'est les devoirs de l'humanité en temps de guerre. Il y a une nouvelle génération de droits. Fait que c'est toute une dimension que vous pouvez creuser ensemble. Et puis, ça me fait penser que, vous savez, la personnalité juridique des rivières, ça existe. Il y a une rivière au Québec qui s'est arrivée. Et j'aimerais ça, je me suis mis à rêver que la rivière Saint-François ici, elle pourrait avoir une personnalité juridique pour la protéger. Et quand ça arrive, la rivière peut intenter un procès à une municipalité, tu sais, ou à un gouvernement pour ne pas suffisamment prendre soin d'elle. Alors, j'aimerais ça que la rivière Saint-François obtienne le statut juridique de protection juridique de la rivière. Et puis, ça veut dire qu'il faudrait aller au conseil municipal à un moment donné pour le demander. Et puis, qu'on pourrait se faire aider de la faculté de droit. OK. Il y a un autre document dont je vais vous parler, c'est que l'Alliance des civilisations et pourquoi est-elle importante aujourd'hui. Donc ça, c'est l'ONU qui parle de ça. Ça s'appelle « Qu'est-ce que l'Alliance des civilisations et pourquoi est-elle importante aujourd'hui? » Donc, la rivière dont je vous parlais tantôt, c'est Magpie, M-A-G-P-I-E, qui a le statut de personnalité juridique déjà, là. Fait que pourquoi pas ici, à Sherbrooke. Et donc, dans la le prochain semestre, là, on va parler de la sécurité énergétique, parce qu'ici, cette semaine-ci, c'est surtout la sécurité nourricière. Fait que, quand même, je vous donne l'existence de l'association Negawatt, N-A-G-A-W-A-T-T. C'est en France. Et il y a un nouveau scénario au cœur des transitions sociétales dont ils ont fait le plan. C'est l'association Negawatt. Ça n'existe pas au Québec, mais informons-nous auprès de nos ancêtres français, puis importons ça au Québec très rapidement. Et aussi, une autre affaire qui se fait pas au Québec, malheureusement, c'est qu'il y a une épidémie de maladies chroniques qui s'appelle la crise sanitaire. C'est très ignoré, autant à Sherbrooke qu'au Québec entier, là. Il y a une pléthore de perturbateurs endocriniens et de phtalates, P-H-T-A-L-A-T-E-S, qui induisent des maladies toxiques dans nos corps et qui provoquent beaucoup de maladies chroniques dont il faudrait se débarrasser. Alors, donc, il existe une association française de villes sans perturbateurs endocriniens. Et moi, au conseil municipal, j'ai déjà proposé, ça fait l'ancien maire, là, avant Mme Ball, la mairesse actuelle, et il m'a répondu, « Voyons donc, penses-tu qu'on va aller rejoindre une association française de perturbateurs endocriniens? » C'était pas ça la question, c'est localement éliminer les perturbateurs endocriniens. Autre sujet pour le journal La Télé, peut-être, pour l'émission plus tard. Et j'ai un dernier texte à vous dire, c'est de l'ONU, là. On en a entendu parler, c'est « Une femme sur trois est victime de violences sexistes. Il n'y a pas d'excuse. » Alors, je suis désolé pour ça. Que pouvons-nous faire, dit l'ONU, au niveau individuel, qu'il s'agisse de soutenir des organisations locales, de plaider en faveur des lois plus strictes ou de soutenir les femmes de notre entourage. Tout le monde peut faire la différence. Alors, il me reste, disons, une minute pour vous dire que les maires au front, il y a plusieurs maires au front au Québec, là, puis elles ont des alliés qui sont des hommes, font dans plusieurs conseils municipaux des sièges pour les futures générations. Alors, ça existe à Montréal. Et puis, je ne savais pas qu'il n'y en avait... C'est-à-dire, je pensais qu'il n'y en avait pas à Sherbrooke, mais il y en a une. Elle est différente, mais ça existe. Une idée de penser aux prochaines générations au conseil municipal de Sherbrooke. Alors, félicitations dans ce sens-là. Et je termine maintenant. C'est fini, l'émission À nous le futur pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie d'écouter dans le futur notre balado, parce que vous pouvez l'écouter. Et je vous souhaite de manger de belles, bonnes nourritures, puis de bien dormir la semaine, toute la semaine, tu sais, jusqu'à jeudi prochain. Salut, c'est Claude Saint-Jean pour Un nouveau futur. Soyez heureux et heureuses.